Cours de philosophie première de Père Marie Dominique Philippe, le 2 décembre 1999 à Saint-Jodard.
Quelle différence y a-t-il entre maître, entre parenthèses, du CERL et l'analyse philosophique? Lorsque j'analyse l'homme en tant que vivant et ce que je mets, est-ce que je ne mets pas entre parenthèses les autres parties de la philosophie? Oui, c'est ce que je vous disais, la différence entre la mise entre parenthèses et l'abstraction. Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que la mise entre parenthèses implique une séparation et l'abstraction n'implique pas nécessairement la séparation. Quand j'analyse le genre, différence à la différence spécifique, eh bien, une analyse animale raisonnable. Bon, je n'exclus pas raisonnable d'animal. Donc je ne mets pas entre parenthèses raisonnable. J'abstrais. Je ne regarde que l'animal. J'ai parfaitement le droit de regarder en vous uniquement l'animal. Vous êtes un animal extraordinairement bien dressé. Il arrive à suivre un cours pendant une heure en se taisant. Mettez un chien à la place, vous verrez. Dès qu'il verra la porte, il va regarder, il va aboyer. Je ne vais pas entre... Et c'est intéressant, parce que c'est la différence entre l'abstraction philosophique et l'abstraction mathématique. Il y a des matheux parmi vous, quand même, hein, qui aimaient les mathématiques, hein, qui essaient de comprendre ce que c'est que l'être mathématique et l'être philosophique. C'est intéressant ça, parce que ça revient tout le temps. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que l'abstraction, qu'est-ce que c'est que la séparation. L'abstraction est au niveau de l'appréhension, la séparation est au niveau du jugement. La mise entre parenthèses implique un rejet. Je ne veux pas le regarder. C'est pas ça l'abstraction. On pourrait dire aussi l'abstraction, je ne veux pas le regarder, c'est sûr, je ne veux pas le regarder maintenant, je le regarderai après. Donc la mise entre parenthèses, c'est le rejet, c'est pas dire du tout, ah, après on regardera ce que c'est que l'être, pas du tout. On regarde le ceci, et ceci est, ceci tout court, et ceci est, c'est la même chose. Ah voilà, l'abstraction, voilà la mise entre parenthèses. Je ne veux pas le regarder, ça ne m'intéresse pas. Vous ne dites jamais l'abstraction, ça ne m'intéresse pas. Je regarde animal, raisonnable ne m'intéresse pas. Momentanément, c'est ce que je ne veux pas regarder. C'est ça l'analyse philosophique. Momentanément, je ne le vois pas. Je mets toute mon attention à ça. Donc, c'est la ratio objective. Et l'objet matériel, c'est la réalité, où il n'y a plus d'abstraction. La réalité qui existe, le sujet. Alors petit à petit, vous arriverez à piger ça. Alors je vous donne tout de suite, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. C'est très important ça, parce que en philosophie, de fait, dont Scott a eu beaucoup de peine, je ne sais pas s'il a vraiment arrivé à le faire, ça dans le ciel maintenant, oui. Mais dans Scott, fait que toute abstraction est une séparation. Et c'est pour ça que, en philosophie, dans la scolastique, on a vu les différents degrés d'abstraction. On a vu que le degré suprême d'abstraction implique une séparation. Mais attention, implique une séparation, non pas du tout une mise entre parenthèses, je ne veux pas le regarder. Vous voyez l'aspect volontaire qui intervient. Pas la même chose. Quand vous analysez des parties dans le tout. Et vous savez bien que ces parties impliquent toujours le tout. C'est pas parce que vous coupez une tarte en différents morceaux, 10 parties, que vous ne regardez pas le tout. Le tout est toujours présent. Mais vous avez abstrait la partie. et chacun prend une partie du tout, et ne pas lui poquer, entre parenthèses, le tout. Donc c'est très différent. Ça, petit à petit, vous y arriverez, en essayant de réfléchir. Et je vous dis, ceux qui ont fait un peu de mathématiques, pas besoin d'en faire beaucoup du reste, ceux qui ont fait un peu de mathématiques s'aperçoivent tout de suite qu'est-ce que c'est que l'abstraction mathématique. Et s'ils ont fait de la science, qu'est-ce que c'est que l'abstraction physique ou la biologie. Vous voyez, ça, c'est une question critique. Voir que de fait, l'abstraction prend des modalités différentes. Et la grande différence, c'est l'abstraction du mathématicien et du métaphysicien. Quand je vous dis, par exemple, qu'en philosophie réaliste, on ne quitte jamais le jugement d'existence. Jamais. Le philosophe ne s'intéresse pas directement au possible. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'homme tel qu'il est maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Tandis que pour le mathématicien, on sépare. Et on est dans un domaine particulier où le point de vue du jugement d'existence n'intervient pas. Alors c'est ça. Husserl, n'oubliez pas, il est un méta-mathématique. Et tout ce qu'il fait, c'est un méta-mathématique. Les pythagoriciens, ce serait du reste très intéressant de regarder la différence entre les pythagoriciens et Husserl. Parce que même du côté platonicien et néo-platonicien, il y a des degrés différents. En mathématiques, il y a des degrés différents. Et l'abstraction arithmétique, l'abstraction géométrique, c'est pas la même chose. Deux choses différentes. Mon père, si on fait la philosophie du réel et on cherche à l'analyser, je ne comprends pas pourquoi vous avez pris l'analyse du langage, substance première, substance seconde, pour exprimer ce qui est. L'analyse du langage, attention. C'est pas l'analyse du langage. Que ça s'exprime dans le langage, d'accord. Substance première, substance seconde. Mais je ne suis pas resté au niveau du langage. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Substance première, pierre. Ça, c'est le langage. J'ai dit substance seconde, homme. Est-ce que c'est le langage? Non. C'est la signification du langage. Je suis bien obligé de parler. Vous voyez, je devrais avoir ici un petit homme, hein, sujet premier. Puis, alors, plus difficile, hein, homme. Qu'est-ce qu'on va avoir comme homme? Il n'existe que dans mon intelligence. Alors, pour voir ce qui est dans mon intelligence, c'est vrai. Une certaine opération particulière, hein, et vous ne verriez rien du tout. Le langage peut exprimer une réalité abstraite dans sa signification, pas dans le langage, le langage est concret, mais dans sa signification. Homme signifie quelque chose d'abstrait. Pierre signifie quelque chose de concret. Alors faites attention, je prends le langage parce que c'est difficile pour moi de faire du troc métaphysique. Faire le troc métaphysique serait toujours emporter la réalité, vous voyez, à la place du langage. C'est difficile de faire du troc métaphysique. Essayez d'exprimer ça toujours par la petite figure. Vous voyez, au fond, on pourrait faire comme ça, hein, une espèce de théâtre avec des marionnettes. Alors, une marionnette, substance première. Deux marionnettes, homme. Vous auriez les deux. Mais ce serait faux. Parce qu'en réalité, quand vous dites homme, c'est pour que vous pensiez quelque chose d'abstrait. Alors ne vous arrêtez pas à la marionnette. Je ne peux pas représenter homme. Je veux pas. Représenter Pierre, oui, je peux en faire la caricature. C'est difficile parce que tous les Pierres ont des nez différents, ont des yeux différents. Ce n'est pas propre à l'homme d'avoir des yeux bleus, voire des yeux noirs. Mais ça signifie quelque chose, Pierre. Et Pierre signifie autre chose que homme. Alors là, je suis devant la réalité. Et je ne m'arrête pas au langage, je ne fais pas la philosophie du langage. Faisons attention. Et quand je vous dis, la substance première, c'est le sujet, c'est Pierre. Je vous donne ça pour que vous compreniez que vous n'arrêtiez pas la substance première. Que vous comprenez la signification des mots. Et la philosophie est toujours au niveau de la signification des mots. Si vous ne prenez pas le sens de la signification des mots et que vous restez uniquement au point de vue du langage, alors vous aurez une philosophie française, une philosophie anglaise, une philosophie américaine, une philosophie, et ainsi de suite, soit une philosophie chinoise. C'est la signification. Alors la signification est commune. Le langage s'arrête à l'expression. Pour exprimer telle signification. Alors la signification est au-delà du langage. C'est la pensée. Alors, la pensée d'un Chinois et la pensée d'un Européen, elle est différente quant au cheminement, mais elle est la même quant à la réalité touchée. Pour un Chinois, comme pour un Européen, homme et pierre signifient deux réalités différentes. Une réalité singulière et une réalité abstraite, uniquement dans la pensée. Substance première, substance seconde. Oui, c'est pas le langage. Je me sers du langage comme un moyen. Mais je ne m'arrête pas au langage. Pourquoi passer par les prédicaments pour découvrir la substance? C'est un moyen, c'est une route. Quelle en est la nécessité? Parce que les prédicaments représentent déjà une certaine analyse. L'analyse qui a été faite, qui est bonne, qui est intelligente. Alors je m'en sers. Je pourrais très bien ne pas m'en servir et refaire moi-même l'analyse du médicament. Je vois devant moi Pierre. Je vois que Pierre il est intelligent. Je vais faire passer un petit examen. Qu'est-ce qu'il a compris cette année-ci sur le cours? Je vois tout de suite où est-ce qu'il en est arrivé. Alors, il est resté à l'abstraction mathématique. Parce qu'il est un matheux, alors il a tout reçu selon le mode mathématique. Il n'a pas dépassé. Donc, tel type d'intelligence. C'est quelqu'un qui... Oh, il est très très bon. D'une bonté extraordinaire. Tous ceux qui sont autour de lui disent qu'on peut tout lui demander à lui. N'importe quoi. Quand il est dans le désespoir, on va chez lui et il repompe. Le pneu est crevé, lui, il peut toujours. Même si le pneu est crevé, il accepte. Tandis que si je vais chez l'autre, non, il dit... Oh. On ne peut rien faire avec vous. Je vous regonfle, et deux minutes après, vous êtes dégonflé. Comment je vais faire ça? Alors, qu'est-ce que je fais? Je le regarde, il a une physionomie, comme ça. Il vaut mieux le regarder le soir, il est plus éveillé. Et qu'est-ce que vous avez fait de la journée? Et vous avez pâti, vous avez avec quelqu'un qui vous fait du mal. Ah oui, tout le temps quelqu'un qui m'écrase. Parce qu'il est beaucoup plus costaud que moi, il m'écrase. Je ne peux pas être auprès de lui. Hein? Passion, action, relation. Mais je peux faire cette analyse-là. Refaites-la l'analyse des prédicaments. C'est bon. C'est bon. Pensez tout simplement à tel frère. Et puis mettez ça. Un état, comme on fait à l'armée, un état, un status. Quel est l'état qu'on peut faire sur ce frère? Alors, une petite fiche. Vous pouvez avoir sur chaque frère, si vous voulez, 10 fiches. Alors, ça fait, non, ça fait pas mal de choses, hein. 130 frères. Et vous remettez tous les jours tout ça en ordre. J'ai vu qu'il était particulièrement intelligent. Il a répondu admirablement. Bon, je vais être son intelligence grandie. Il n'aurait pas dit ça au début. Son affectivité, oh, extraordinaire. Vous pouvez pour chacun faire cet état avec les 10 prédicaments. Et essayez d'en ajouter. Vous n'arrivez pas. Parce que vous avez le fourre-tout. Le Capharnaüm. On fourre tout dedans. Tous les balais. C'est une taille différente, mais on les met tous dedans. Quand vous ouvrez ça, vous savez pas ce qu'il y a. Vous avez un seau, une vieille brosse, c'est tout ça, c'est plus ou moins. Mais dedans, il y a quand même des choses intéressantes. Le fourre-tout, c'est l'habitus. C'est l'habitus, pas l'habitus qualité, mais l'habitus avoir. Parce que l'avoir est très différent. Tout ce qu'on peut posséder. La différence entre avoir et être. Et c'est vrai, c'est une grosse. Et les catégories chez Gabriel Marcel, par exemple, c'est être et avoir. Oui, c'est très gros, mais c'est quand même une division des catégories. Et puis je peux, à l'égard des qualités, diviser presque à l'infini les qualités. Les qualités, c'est tellement différent. Par les qualités, on touche les différences de chacun. Chacun des qualités particulières. Dans l'ordre de la douceur. Il y a des variétés énormes. Quand vous dites à quelqu'un, ah, vous êtes dur, ben, vous êtes dur pour moi. Et pour un autre, oh non, ce que vous êtes doux. Alors dans la même journée, quelqu'un vous dit, vous êtes dur et vous êtes doux. Alors, très bien. Alors on en perd la tête. Hein. Si on considérait l'absolu de quelqu'un qui me dit, vous êtes dur, vous êtes doux, non, ça veut dire que c'est relatif. Hein. Passez un examen, vous êtes très bon en mathématiques, nul encore en métaphysique. Ça peut arriver, ça. Oh, extrêmement intelligent. Une tête de maître extraordinaire. Très intelligent. En métaphysique, il ne comprend rien. Et quand vous prenez les qualités d'un artiste, oh, ce qu'il est merveilleux, cet artiste. Il fait des choses d'une tendresse extraordinaire. Puis alors l'autre qui dit, enfin non, il manque de virilité, c'est extraordinaire, c'est invraisemblable. Rouault, qui à un moment donné trouvait que tout ce qu'il avait fait quand il était jeune, qui restait dans son atelier, ne devait pas rester dans son atelier. Il a brûlé tout ça. Et aujourd'hui, vous auriez un premier Rouault, ça c'est intéressant, il l'a brûlé. Alors Rouault, je me souviens, il était devant moi. Et on dira que Rouault est sadique, qu'il a brûlé ses enfants. Ses tableaux. Parce qu'il ne les reconnaissait plus. Alors il est sadique. Il en a brûlé 300. 300 tableaux, parce qu'on ne les achetait pas. Donc il restait là. Et il fallait qu'il y ait de la place. On aurait pu les prendre. Ah, ils auraient laissé à ce moment-là. Peut-être pas. Parce que c'était l'homme capable, quand on était invité, il trouvait un tableau dont il n'était plus d'accord, il dit, ah, ce tableau, je le prends, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est plus moi. Il dit, mais je l'ai acheté, donc il m'appartient. Ah non, il m'appartient, c'est moi qui l'ai fait. Il y a eu un procès aux États-Unis là-dessus. Est-ce que le propriétaire, c'est l'artiste, ou est-ce que c'est celui qui l'a acheté? L'artiste a consenti de le vendre. L'artiste aurait pu très bien ne pas consentir de le vendre. Le jour où il consent de le vendre, c'est dans le commerce. S'il ne veut pas le vendre, c'est à lui, c'est lui le propriétaire. Là, vous voyez, les catégories, c'est quand même très astucieux. Essayez de le faire, hein, et vous verrez, pas si bête. Hein. Alors, c'est un premier travail qui a été fait. Et si on est intelligent, on se sert du premier travail. Mais je ne veux pas faire de la philosophie en disant « Ah, je suis le génie, alors je recommence tout. Avant moi, il y a eu de la bêtise. » Non. Qu'est-ce que c'est qu'un être intelligent? C'est celui qui sait se servir de tout le monde. Parce qu'il n'est pas l'intelligence. Il a une certaine intelligence. Alors on se sert du travail des autres. On l'a vérifié. Je ne prends pas les catégories de Platon. Parce que si je prends les catégories de Platon, elles ne sont pas les catégories à partir de ce qui est. À partir de l'homme. Tandis que les catégories d'Aristote, je les retrouve dans l'homme. Et je sais très bien ce que c'est, dans l'homme. Et l'homme implique, dans tout homme, je peux trouver toutes ces catégories. Tandis que si je prends Platon, hein, c'est pas la même chose du tout. C'est des catégories, ils sont faites à partir des idées de Platon. Pour Platon, c'est très bien, il se sert de ces catégories, lui. Mais ça, c'est pas transmissible. Les catégories d'Aristote ont ce jour tout à fait particulier, c'est que on les retrouve partout. Alors, c'est pour ça qu'on s'en sert. Et on serait bien bête de ne pas s'en servir, parce que ça a été fait. Aristote a reconnu que celui qui comprend, celui qui s'exprime, toujours, il y a un sujet. Puis il y a un tas de catégories relatives. Alors, faites vous-même l'inventaire des différents attributs qu'on peut donner à l'homme. Vous retrouverez les catégories d'Aristote. Alors, à ce moment-là, vous direz, c'est très intelligent, je l'ai retrouvé. Ah. Alors, est-ce que ce qui est intelligent, c'est ce que vous avez compris? Oui, intelligent, c'est ce qui est dans la réalité. Avant de critiquer les catégories d'Aristote, et dire, moi, je m'en sers pas, c'est idiot. Alors, montrez que lorsque vous regardez un homme, vous voyez toutes ces déterminations, toutes ces diverses déterminations. Alors, donnez-moi d'autres déterminations de l'homme. Alors, à ce moment-là, on pourra discuter si vos catégories sont mieux que les catégories d'Aristote. C'est un petit exercice très simple à faire. On peut tous faire ça. Faites vos catégories. Et si vos catégories sont mieux que celles d'Aristote, on pourra voir si vous êtes un génie plus grand. Alors, à ce moment-là, on prendra une catégorie. Tel frère, telle date a découvert ça. Et ça, c'est particulièrement intelligent. C'est du super Aristote. On peut faire du super Aristote. On peut aller plus loin qu'Aristote, bien évident. On peut. Parce que depuis Aristote, on a quand même beaucoup pensé. On a pensé pour, on a pensé contre. Alors, regardons. Et il y en a quelquefois qui ont inventé des choses magnifiques. Contre. Depuis Platon, on a pensé aussi beaucoup. Alors, c'est intéressant de voir ce qui est ancien, ce qui est nouveau. C'est toujours la réalité, l'homme, qui est la mesure de ma recherche philosophique. Tout le temps. Jugement d'existence, mais qui existe. Pas l'homme qui est dans la lune. Jusque maintenant, tous les hommes qu'on a découverts dans la lune, ce sont des hommes qui sont venus de la Terre. Donc ça n'a rien inventé. La lune n'a pas inventé un nouvel homme. Évidemment, celui qui a été là-bas a eu une certaine expérience que je n'ai pas. Mais je peux me servir de son expérience. Quelle était votre impression la première fois que vous avez mis le pied sur la lune? Première interrogation à donner à un cosmonaute. Quelle est votre impression quand vous avez mis votre pied sur la lune? Vous avez dit, est-ce que la lune va encore tenir debout? C'est là un poids supplémentaire, tout d'un coup, tout l'équilibre du monde est changé. La lune a changé grâce à mon poids. Non, vous n'êtes sûrement pas posé cette question, vous êtes juste absurde. Qu'est-ce que c'est que mon poids à côté du poids de la lune? C'est rien du tout, une petite poussière. Ce qui est intéressant, c'est pas votre corps. Le poids de votre corps, il est moindre que la lune. Il est moindre que le soleil. Il est moindre que les astres. Qu'est-ce que ça représente? Ah, c'est que vous êtes intelligent. Oui, c'est le petit pygmée. Je le rencontre au Cameroun. Il avait tué quantité d'éléphants pendant sa vie. 18, je crois. Il avait tué ça. Je lui dis, mais là, ça en fait une certaine quantité comparativement à ce que vous êtes. Déjà, un éléphant par rapport à vous, là, c'est une grosse bête. Vos petits pygmées. Alors il répondait simplement, j'ai l'intelligence. Et l'éléphant ne l'a pas. je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais il y avait un interprète qui disait « J'ai l'intelligence ». C'était beau de voir ça. On voyait le geste. « J'ai l'intelligence ». La grosse bête ne l'a pas. Alors, vous voyez, dans les catégories, l'intelligence joue un rôle important. Et la capacité d'aimer. Quel est le lien entre la substance seconde et le concept ? Le lien. La substance seconde, homme, c'est ce que j'ai pensé à partir de Pierre. Alors le lien, c'est que dans Pierre, il y a une nature qui a une certaine intelligibilité que progressivement j'ai compris. Les qualités essentielles de Pierre, les qualités propres à Pierre, individu. Pierre pèse 90 kilos. C'est pas propre à Pierre. Je trouverai bien encore un homme qui a 90 kilos et ils seront égaux quant au poids. Et puis Pierre peut maigrir. C'est pas Pierre, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel à Pierre ? Il a l'intelligence, il est capable d'aimer. J'essaie de découvrir les qualités accidentelles et les qualités secondaires. Les qualités accidentelles, les qualités propres, substantielles, essentielles à Pierre, pour arriver à définir Pierre. Qu'est-ce que j'atteins quand je définis Pierre ? J'atteins sa nature, sa quiddité. Et donc, quand je dis « homme », c'est bien la quiddité de Pierre que j'ai saisie en lui, progressivement. J'ai analysé ça. Oh, j'ai mis du temps avant de faire ça. Oui, c'est comme pour, exactement comme pour les catégories. J'ai saisi tout ce qu'il y avait en lui de détermination. J'ai mis d'un côté les déterminations essentielles, de l'autre côté les déterminations accidentelles. Ça a mis du temps, ça. Puis je suis arrivé à dire « homme ». Pas si mal. Homme, animal, raisonnable. Animal, je retrouve dans l'homme tout ce que je vois dans l'animal. Il mange, il dort, il regarde, il bouge. Il n'est pas méchant, mais quand on l'attaque, il se défend. C'est ça l'animal. Si au contraire je le caresse, très doux, je peux même caresser des animaux qui en soi ne sont pas commodes, mais dès qu'on leur a donné à manger, et quand ils sont en train de manger quelque chose qu'ils aiment, vous pouvez les caresser, ils sont très doux. Ça fait partie de son caractère, ça. Et c'est comme ça, la psychologie elle repose là-dessus. Vous voyez, ce qu'on dit toujours à une épouse, bien préparer le repas de votre époux. Petit à petit, il va s'amadouer. C'est très vrai. Il n'est pas méchant. Mais s'il n'a pas la nourriture qu'il lui faut. Et c'est très vrai pour les cuisiniers, ça. Ils ne sont pas méchants. Mais si, j'aurais bien égal ce qu'ils servent est bon ou mauvais, ben, ils verront les réactions. Le peuple aura faim. Il se mettra à crier. Il réclamera. Alors, voyez, la substance seconde exprime ce qu'il y a d'essentiel, la quiddité. Genre et différence spécifique. C'est ça, la substance seconde. Exprime ce qu'il y a d'essentiel de la nature d'une réalité de l'homme. De l'homme, puisqu'au fond, quand je cherche la substance, je regarde toujours l'homme. C'est l'être le plus parfait, voyez-vous, dont j'ai l'expérience. Je ne veux pas essayer de savoir ce que c'est que l'être en regardant le crapaud. Ça me fatiguera beaucoup. Tandis que quand je regarde l'homme, ah, ça c'est vrai. J'ai l'expérience philosophique d'aucune autre réalité plus parfaite que l'homme. Parmi les hommes, il y en a plus ou moins parfaits. Si j'ai le bonheur d'avoir un ami très intelligent, oh, C'est très important pour ma philosophie. Si au contraire, j'ai le malheur de ne jamais avoir rencontré d'être intelligent, ma philosophie, elle risque de retourner sur moi-même, dire je suis l'être le plus intelligent que j'ai rencontré. Alors je me regarde. Tandis que si vous avez le bonheur de rencontrer quelqu'un de plus intelligent que vous, vous ne pouvez pas rester là-dessus. Vous êtes bien obligé de dire que ah, l'autre, oh, il est pas bête. Et donc il m'intéresse, il est pas bête. Tandis que si au fond vous ne rencontrez que des imbéciles, ça peut arriver, ça peut arriver. Vous êtes sur une terre où il n'y a que des imbéciles. Mais c'est l'immense grâce au lieu de faire partie d'un novicien intelligent. Parce qu'à ce moment-là, petit à petit, vous dites, mais oui, enfin, vrai tout, il n'y a pas que moi intelligent au monde. Je ne suis pas seul à avoir la vocation d'être frère de Saint-Jean, il y en a d'autres. Et ils sont même plus intelligents que moi. C'est curieux. Ils n'ont pas été autre part. C'est curieux. J'aurais pu aller autre part en disant, vraiment, la moyenne. Mais on n'entre pas pour la moyenne. Voyez. La moyenne, on la dépasse. Chacun, à sa façon, parce que la moyenne, elle est propre à chacun. Vous voyez, réfléchissez sur votre expérience de l'homme. Et vous verrez, on aboutira sujet homme. Cherchez autre chose. Vous pouvez mettre sujet Pierre intelligent. Pierre capable d'aimer. C'est bien. Pierre artiste. Pierre oh, vertueux. Ce qu'il est vertueux. Pierre prudent. Prenez toutes les vertus. Vous verrez que toujours vous ramenez à toutes ces vertus. Caractérise l'homme. Et vous ne sortez pas de ça. Cherchez bien. Vous direz, ah, super homme. Oui, ça, dans notre société, on arrive à des super doués. Super doués. C'est encore un homme, c'est encore un gosse. Super doué. Il y a encore des limites. Ça revient au même. Si vous êtes super doué quand vous avez 6 ans, est-ce que vous serez encore super doué quand vous aurez 18 ans? Pas sûr. Pas sûr du tout. On le sait, ça. Il y a des qualités qui disparaissent, qui sont vraies momentanément. Alors vous arrivez petit à petit à découvrir les qualités essentielles que vous voudrez homme. Alors, avant de critiquer, comprenez comment on est arrivé à ces deux substances. Et cherchez, si vous avez dans la recherche qu'est-ce que c'est que l'être au niveau de sa détermination, si vous avez quelque chose d'autre, je ne vous demande pas mieux, hein. Vous mettrez par écrit, j'ai découvert autre chose que homme. Qu'est-ce que vous avez découvert? Homme. Homme super doué, mais homme super doué c'est encore homme. Parce qu'il est super doué par rapport aux autres. C'est le super, par rapport aux autres. Mais par rapport à un homme formé, à la seule chose. L'homme, autant que possible, c'est ouvert à tout homme intelligent. Homme, c'est ouvert à tout homme capable d'aimer. Homme, c'est capable. Un artiste, c'est un homme. C'est un homme qui est super intelligent dans ce domaine-là. Il réalise des choses que les autres n'arrivent pas à réaliser. Donc il est super à ce moment-là, oui, dans ce domaine-là. Mais il n'est pas super dans d'autres domaines. Homme contient tout cela, ce qui est essentiel. Oui. Donc je prends substance première, substance seconde, c'est les deux déterminations essentielles. Et ces deux déterminations essentielles demeurent, toutes les deux, complémentaires l'une de l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Complémentaires de l'une de l'autre. Le sujet Pierre, c'est individuel. Il existe. Homme, comme homme, il n'existe pas. Mais il exprime ce qui est essentiel. Tandis que Pierre n'exprime pas. Au point de vue de l'être, puisque l'un existe, et l'autre n'existe pas. C'est ceci et ceci. Ceci, homme, et Pierre, tiens, je trouve quelque chose de très semblable. Oui, en effet, ceci et ceci, c'est pas la même chose. Ceci implique telle détermination, homme. Et il existe Pierre. Alors, c'est vrai que les choses tout à fait premières que nous saisissons, c'est bien ceci, et puis il existe, jugement d'existence. Il y a une distinction fondamentale entre les deux. En disant ceci, je demeure dans l'intentionnalité, dans la signification de l'intentionnalité, et hein, je touche une réalité autre que moi. Pierre, une réalité autre que moi. Homme, ah, quelqu'un qui est comme moi. Alors, vous pouvez réfléchir longtemps là-dessus, et c'est bon de réfléchir là-dessus. Vous voyez que tous les deux sont des déterminations premières. Vous ne pouvez pas trouver une autre détermination de l'être plus radicale que Pierre au niveau de l'existence. Vous ne pouvez pas trouver une détermination plus radicale au niveau de l'intelligibilité que homme. Cherchez. Et quand vous aurez découvert ces deux, vous direz, ah oui, c'est vrai. Je cherche qu'est-ce que c'est que l'homme. Je cherche qu'est-ce que c'est que l'être. Je vois en effet qu'il y a deux déterminations fondamentales qui sont distinctes. L'une m'est donnée grâce à l'abstraction, homme. L'autre m'est donnée grâce à l'expérience. C'est vrai, c'est deux manières différentes. L'expérience de Pierre, l'expérience de homme. Et tous les deux, je peux réfléchir sur les deux. Et tous les deux ont quelque chose de premier, de fondamental et d'absolu. Chercher, par rapport à Pierre, une détermination plus fondamentale que homme. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Je jette le pari, vous voyez. Cherchez. Si vous en trouverez, vous me le direz. Ce sera alors à ce moment-là une catégorie nouvelle. N'est-ce pas ? On pourra discuter. Et parce que vous pourriez dire ami. Ah, est-ce que ami est une catégorie supplémentaire que homme ? Mais non. Tout homme peut avoir son ami. Et ami, c'est merveilleux pour lui, mais ça n'ajoute rien d'essentiel. Il y a des hommes qui n'ont pas d'amis et qui sont des hommes. Ça arrive, des solitaires. Impressionnant. Et puis il y a des amis, oui c'est merveilleux, il a développé en lui une capacité de recevoir son ami, d'accueil vis-à-vis de son ami. Son ami c'est un autre lui-même. Ah, vous voyez, c'est un autre lui-même. Donc, au fond, pratiquement, l'ami se ramène à lui, d'un autre lui-même. Donc, il est homme. J'ai découvert que mon ami était un homme. C'est extraordinaire. Et je vois mieux ce que c'est que l'homme, dans mon ami qu'en moi. Tiens, tiens. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui. Je découvre mieux ce que c'est que l'homme dans l'ami qu'en moi. Très souvent, c'est comme ça. Parce que je dirais, c'est plus objectif. Ça, c'est très intéressant à marquer. Parce que ça montre que lorsque je suis dans la perspective de la phénoménologie, je ne quitte pas mon moi. C'est l'homme. Et vous voyez donc, ce n'est pas l'homme parfait. C'est l'homme qui est chez moi. C'est l'homme qui est moi. Or, l'ami, c'est un autre moi-même qui me fait comprendre davantage que c'est que l'homme que moi. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Je découvre l'homme grâce à mon ami. Je l'avais déjà découvert un peu en moi, mais moins bien, parce que c'était toujours moi. C'est très difficile, hein, quand je me regarde, de me séparer de mon individuation et de ne regarder que l'aspect essentiel. Et c'est vrai. Donc, dans moi, il y a une abstraction qui ne se fait pas. parce que dans le moi, il y a une abstraction, c'est pas fait. On a fait une grosse abstraction, la mise entre parenthèses de l'être. On a voulu tout fourrer dans moi. Oh. Et comme c'est curieux, ça, ce phénomène. Parce que, justement, on n'a pas regardé l'autre. Parce qu'on n'a pas regardé l'autre, on a regardé moi, on met le sujet et homme en même temps, et c'est moi, on a fait une fausse synthèse. Parce que vous ne pourrez jamais identifier le sujet, Pierre, et homme. En phénoménologie, quand vous regardez la conscience de moi, du moi, et que vous considérez que c'est ça qui est l'absolu, qu'est-ce que vous faites ? À la place de découvrir l'homme, vous avez découvert moi, la conscience de moi. Eh bien, la conscience de moi est moins, dans quel sens je veux le dire, est moins dans l'ordre de la détermination que homme. Parce que dans la conscience que vous avez de vous, dans la conscience que j'ai de moi, je n'ai pas toutes les déterminations de l'homme. J'ai un type particulier d'homme. Je me suis fait comme ça. Ah, vous n'avez pas telle qualité, là. Voulez-vous ? J'ai pas eu le temps d'avoir toutes ces qualités-là. J'ai dû, durant la vie, lutter. Et là, j'ai gardé quelque chose d'essentiel. Mais j'ai abandonné des tas de choses. Et c'est vrai. Mon moi personnel, ma conscience de mon moi, n'égale pas homme. Sauf chez Jean-Jacques. Regardez-moi et vous verrez l'homme. Mais tout le monde sourit quand on dit ça. Jean-Jacques m'aurait dit ça, j'aurais dit, écoutez, c'est la grenouille qui va devenir aussi grosse que le bœuf. Hein. Ou aussi grosse que l'éléphant. Vous pouvez pas. Vous pouvez souffler, vous n'arriverez jamais à égaler l'homme. Même vous, Jean-Jacques. Hein. Non, vous n'y arriverez pas. C'est monstrueux. On n'ose pas le dire, mais au fond, c'est monstrueux quand même. Quelqu'un qui dit, regardez-moi, vous verrez ce que c'est que l'homme. Vous voyez, vous vous placez devant votre père maître. Vous dites, père maître, vous avez un génie. Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est que le novice. À ce moment-là, il dira, j'ai compris, tu n'as pas la vocation. Allez, va-t'en. Il dira ça ouvertement, il a raison. Le moi conscient n'est pas l'homme. Mais il y a une parenté entre les deux. Quelle est la parenté entre les deux ? C'est ça qui est intéressant. Pour voir la parenté entre la phénoménologie et le réalisme. Quelle est la parenté entre les deux ? La parenté entre les deux, c'est que l'un et l'autre sont découverts par l'intelligence. Tous les deux sont saisis dans une attitude réflexive. Ah, ça c'est déjà beaucoup. Et puis, tous les deux, homme et moi, cherchent à quand même préciser ce qui est essentiel. Et d'une certaine manière, en moi, je découvre ce qui est essentiel en homme. C'est vrai. Mais où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le moi ne s'identifie pas au sujet. C'est là la limite. Donc c'est du côté de l'exister. Ah, je commence à comprendre pourquoi on met entre parenthèses l'exister. Pour qu'on puisse identifier moi et homme. Voyez, le bokeh, c'est astucieux. Comme ça, je peux arriver à identifier moi et homme. Mais alors le sujet, ah, le sujet, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est là, fondamental, mais on n'en parle pas, parce que j'en ai pas conscience. C'est en dehors de moi. C'est l'instinct, c'est quelque chose de radical, c'est pas moi. C'est pas moi, ça. Moi, c'est moi qui me fais le sujet, que voulez-vous. Je suis né de parents comme ça, alors je retrouve en moi un certain atavisme. Qui est le sujet ? C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Je n'ai pas fait le sujet. C'est quelque chose qui est lointain, qui diminue chaque jour, et mon moi grandit tous les jours. Mon moi est de plus en plus grand et mon sujet de plus en plus petit. Hein ? On aura la tentation de dire ça. Le sujet, c'est pas moi. C'est vrai, c'est pas moi. Et le moi identifié à homme, par Lupocquet.